Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous.
Rock'n, républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités.
Ouais, je commence le podcast par du Kerry James. Je fais ce que je veux. C'est moi qui suis au montage. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui, on va parler du film d'Ivan Attal, Le Brio. Petit message de remerciement à tous ceux qui nous envoient des messages, que ce soit sur SoundCloud ou par Facebook ou par Instagram d'ailleurs. Merci à vous tous. Et puis, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas fait d'AFA Mail, donc si vous avez des questions relatives au cinéma ou à nos goûts, si vous voulez qu'on fasse des top 5 de films de pingouins ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on va le faire avec plaisir. Instant de gratitude slash autopromo, merci à toutes les personnes qui sont venues voir le spectacle le 24 novembre, presque seul au Centre Culturel des Minimes. Il y aura une dernière date le vendredi 29 décembre, donc voilà, venez nombreux. Tous les mercredis, vous pouvez venir à la Toulouse Comedy Night, au Duplex, 24 allée Jean Jaurès à Toulouse, où je pourrai passer ou présenter, voilà, en tout cas je suis toujours pas très loin, si vous voulez de l'humour de qualité, voilà. Vous allez dans cet épisode écouter des discussions très très intéressantes sur le brio et sur le message du film et sur le message des films en général. J'ai pris grand plaisir à discuter de tout ça avec Fela, Arnaud et Arthur. On a enregistré ça le 26 novembre. Je précise la date parce qu'on nous a dit que ça a aidé de savoir quand est-ce qu'on en a parlé. C'est vrai que parfois on parle de news, des choses comme ça. Et que oui, comme nous sommes des prophètes et qu'en général on devine les choses qui vont se passer dans le monde du cinéma. Comme ça, maintenant, je dis quand c'est enregistré. Ça a été enregistré le 26 novembre. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur iTunes et d'aller mettre sur l'iTunes review des podcasts. Voilà, 5 étoiles, un petit commentaire pour dire bien. Passable ou un truc comme ça, mais 5 étoiles quand même. On a également parlé de plein de films en vrac et de séries d'ailleurs, donc n'hésitez pas à écouter tout ça jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, le descriptif vous note le minutage de toutes les sections de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous et très bonne journée et bonne vie en général, hein. Voilà.
Si vous voulez, on peut parler des news si vous en avez. Je compte m'excuser platement vis-à-vis de ce que j'ai dit au gars qui devait effacer la moustache de Henry Cavill dans Justice League. Parce que je sais pas si t'as vu, j'ai retweeté un message de quelqu'un qui a ses sources en gros à la Warner et ouais. Qu'en gros effectivement on lui a laissé très peu de temps pour effacer cette moustache numériquement. Et surtout c'est Paramount qui a refusé absolument de mettre une fausse moustache dans Mission Impossible 6, quoi.
Parce que genre c'était dans les contrats.
Ça, voilà, du coup, en gros, Paramount c'est des gros bâtards. Parce qu'ils sont très cons parce que, enfin,
ou des vrais amateurs de moustache peut-être.
Après, peut-être que c'est des puristes de la moustache. Hein. moi j'aimerais plutôt qu'on voit les choses sous cet angle.
Tu vois, moi, imagine, je suis Paramount, je suis heureux qu'un de mes acteurs ait une très bonne prestation dans un autre film, tu vois, et ça ne fera qu'améliorer.
C'est pour ça que t'es pas producteur à Hollywood, Areski.
C'est pas un puriste de la moustache.
On pourrait aussi défendre l'idée que avec une fausse moustache, peut-être qu'on joue moins bien. Peut-être qu'on joue moins bien l'homme à moustache.
On est gêné,
Je pose ça là, peut-être, je sais pas. Genre, tu vois, tout à coup, on sent la colle qui se ramollit un tout petit peu, tu vois, sur la lèvre. Et on y pense au lieu de penser à son interprétation. Je sais pas.
Mais c'est pour ça qu'il faut challenger Henry Cavill. Quoique, tu te souviens que c'est le coiffeur de Cher qui est devenu producteur et qui est devenu le producteur de Wild Wild West, tu sais. le gars qui voulait absolument mettre une araignée géante mécanique, etc. Du coup, peut-être que c'est un barbier qui a produit le truc. Du coup, il s'est dit non, mais la moustache, vous pouvez pas toucher.
Soit dit en passant, et ça c'est pour votre culture personnelle, mais hier dans Danse avec les Stars, il y a eu une réinterprétation de Wild Wild West. C'était très beau.
Merci.
Et ben on se couchera moins bête.
Oh, voilà.
On peut dire ce qu'on veut de du film, mais la chanson était quand même ultra cool et le clip était génial.
Il y avait
Carlton dans le clip de Wild Wild West aussi.
J'ai quand même envie de parler là d'un film qui va bientôt sortir qui m'excite vachement, c'est Best Friend from Heaven.
Ah oui, tu l'as.
Attends, c'est quoi ça?
Et en fait, c'est, tu vas adorer.
Okay.
Et alors, je mets là, mais peut-être épisode du premier de l'an, peut-être. Je le pose là. Je le pose
carrément.
Là, en attendant.
Carrément.
Alors, c'est l'histoire, en fait, de... c'est une femme qui va se marier.
Ouais.
Et le jour de son mariage, son chien est écrasé par une voiture.
Ok.
Et du coup, le mariage est annulé.
Évidemment.
Et le chien, qui est devenu un chien fantôme, culpabilise à cause de ça et décide de revenir sur Terre pour organiser le meilleur mariage possible à sa maîtresse.
Ça a l'air incroyable.
Avec la voix de Chris Christopherson.
C'est
pour le chien.
Waouh, qui ressort des tiroirs.
Il ressort du tiroir et dans la bande-annonce, alors c'est marrant, mais j'ai jamais vu un acteur autant s'en battre les couilles d'un rôle, j'ai l'impression.
Ah ouais.
Tu vois le chien qui voit sa maîtresse et tu vois Chris Christopherson qui fait « Oh no, she didn't get married ».
Tu
sais, il y a une expression en anglais pour dire faire quelque chose un petit peu par-dessus la jambe, c'est he phoned it in, tu vois, il l'a fait par téléphone. Là, je suis sûr que Chris Christopherson a fait son rôle par téléphone. Genre, il a enregistré tout ce qu'il avait à dire sur son iPhone, il a fait bon, vous débrouillez avec ça.
Attends, et ça sort quand ça du coup?
Bientôt là, je sais
pas. Mais en France ça sort?
Je crois
non.
pas.
Ouais, non, ça va
être oui, ça doit être un direct ou DVD, ouais, c'est sûr.
Ok.
2017. Okay. C'est tout ce qu'on a comme news, des moustaches et des chiens.
Vous avez vu là sur Twitter ça, il se met, on sent qu'on arrive dans la saison des tops là, t'as vu? Il y a eu
ça commence.
Il y a eu tweet comme Bonello là.
Je te fais confiance.
Si,
où tu dois donner ton top 10 depuis 2007, je crois.
Ah oui, j'ai vu que Captain Marv avait.
Il y a aussi un autre truc du coup genre qui est arrivé genre juste derrière, c'est genre citer trois films d'un même cinéaste qui sont des chefs-d'œuvre et qui se sont succédés.
OK. Arthur, il est trop dans le game.
C'est pas si facile à trouver,
tu sais. Il aime bien avoir ce petit test là. Ça lui fait
Arthur est dans le game des classements, quoi. Ça c'est.
Attends, quel cinéphile n'y est pas, hein, j'ai envie de vous dire.
Attends, mais on y est à fond, hein.
Ah bah oui, bien sûr.
À fond.
Franchement, j'ai l'impression que genre la vie d'un cinéphile, c'est juste classer des films.
Mais la liste, pas avant janvier, parce que j'ai envie de dire, l'année dernière, un de nos films préférés, il était sorti la dernière semaine de l'année. C'était Manchester by the Sea.
C'est vrai que ça arrive. Non, mais il y a des films en fin d'année qui sont chouettes, c'est retard.
De toute façon, maintenant, j'ai créé une jurisprudence, n'oubliez pas. Moi, j'utilise les dates IMDB, hein, je suis désolé, c'est comme ça.
Attends, t'as perdu, mon vieux.
Quand il n'y a pas de distribution en France pendant longtemps. Parce qu'on attend encore Hunt for the Wilder People, en fait, en France. Hein. Je vous le rappelle.
Ah, ouais, mais toi, oui. Tu triches.
Ouais, c'est un peu de la triche, mais ok.
Toi, tu triches, il faut être patient. Si t'avais attendu suffisamment, ben, Upstream Colors, il est sorti 5 ans plus tard.
Ouais, ouais, clair. C'est ça. Et pour peu que tu l'aies mis dans ton top, genre 5
alors,
ans avant, t'as l'air un peu con.
Je l'avais fait, je l'ai foué.
Ou pédant,
du coup, mais attention, Arnaud, ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu utilises ta technique à toi, Upstream Color, il est dans ton top 10 de cette année.
Mm-hmm.
Voilà, voilà.
De toute façon, je vais tellement avoir de mal à grappiller 10 films cette année.
Il va nous dire, comme d'habitude, je vais en rajouter 5, etc. Est-ce que Fela, tu fais des top 10 de tes films?
Non,
jamais.
J'en suis incapable. Mais après, si tu veux, je vois un film et je l'oublie à peu près 4 heures plus tard.
D'accord, donc j'espère que tu as vu le brio il y a moins de 4
heures. Oui, c'est ça, t'as vu le brio là, juste avant de venir.
C'est justement le cas. C'est justement le cas, on l'a vu juste avant de venir enregistrer. Par contre, est-ce que tu peux classer les séries? Parce que les séries, quand même, tu as fait deux fins de série du coup. Bah, les deux, en fait.
Oui, un peu plus. Mais si tu veux, non, mais j'ai du mal à classer des trucs qui sont trop différents, des trucs de catégories trop différentes.
Ouais, c'est vrai que
vois,
c'est un peu bizarre
de classer une comédie par rapport à un drama, c'est pas, enfin,
ouais, ouais.
Tu vois, c'est.
Faut juste laisser passer. On parle que avec le cœur, c'est tout.
Oui, ouais.
C'est pour ça. Mais... D'ailleurs, en parlant de séries et de cinéma à la fois, on a vu la bande annonce de Top of the Lake saison 2 au cinéma.
Moi aussi, ouais.
J'ai hâte de le voir.
Grave.
Et c'est... Enfin, de la voir, pardon.
Ouais.
Ça commence le 7 décembre sur Arte. Ouais.
Okay. Moi j'avais vraiment bien aimé la saison 8.
Ah, j'avais adoré.
Ouais. Ah ouais, moi aussi j'avais adoré.
Ouais. Et je disais justement, moi je crois que c'est le meilleur rôle d'Elizabeth Moss, qui est pourtant genre vraiment excellente partout. Hein, mais là, Top of the Lake, pas la saison 1, je veux dire.
Ouais. Vraiment... Alors, soit dit en passant, là il se met à y avoir aussi petit débat sur Twitter sur est-ce qu'on a le droit d'inclure Twin Peaks saison 3 dans le top 10 ciné de l'année. Attention.
Bah, en fait, je crois pas parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois.
Je suis d'accord, mais non, parce qu'en fait, non. Alors, du coup, il y a des gens qui jouent sur les mots et qui disent est-ce qu'on a le droit de le mettre dans le top 10 film de l'année ?
Alors, le truc, moi,
le top 10 ciné, c'est facile de dire non.
Oui.
Top 10 film.
Moi, ce que je pensais faire, parce qu'il y a, deux de mes trucs préférés de cette année, j'en avais déjà parlé, mais c'est Twin Peaks saison 3 et c'est l'épisode 7 de la saison 3 de Rick et Morty.
Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit.
Mais à ce moment-là,
et je vais pas pouvoir les mettre.
Œuvre audiovisuelle, tu vois.
Ouais.
Tu sais ce que je veux dire ? À ce moment-là, je peux, faire, je peux mettre une pub si j'ai bien aimé une pub, tu vois.
Tu peux.
Ce serait énorme. C'était qui nous avait dit que. C'était toi qui nous avait dit que la pub Kezak était réalisée par Ridley Scott ?
Quoi ?
C'est pas moi.
C'était pas
je
toi ?
Je savais pas.
Mais
non.
Eh ben, je vous la prends.
Heureux de cette information.
La pub de Kezak s'appelle Orio Kezak, c'est réalisé par Ridley Scott.
Sérieux ?
Oui, c'est vrai. Je sais plus qui m'a dit ça et j'ai effectivement vérifié. Donc
moi, voilà. Je l'aimais bien cette.
Attends,
pub.
Mais est-ce que c'est pour ça ?
On parle de l'original, hein ?
Oui, parce la que je... toute première des années 80.
La vraie, quoi.
Je me souviens qu'il avait fait Ridley Scott le choix musical le plus raciste du monde, je crois, dans La Chute du Faucon Noir, où en fait, comme musique. Il avait mis, comment il s'appelle, ce chanteur breton, Loïc Prigent, parce que ça, genre, ça ressemble un peu à de l'arabe, mais qui trouvait ça cool.
Après, il a mis du Elvis, donc quelque part, tu vois, c'est... en Somalie, c'est tu peux faire tout ce que tu veux.
En Somalie, tu peux mettre des... Il n'y a pas de gouvernement en Somalie,
c'est clair.
Donc
c'est
à partir de là, il n'y a pas de jurisprudence.
Non,
tu vois.
Vrai,
et puis surtout, il n'y a pas de Twitter somalien pour te dire, oh là là, vous nous offensez avec vos trucs, tu vois. Voilà. Donc, il peut se permettre aussi de faire ce qu'il veut. comment dire oui au racisme. Bref. Le brio, on peut attaquer, je pense. Hein.
En parlant il est temps de commencer, je crois.
Voilà. Alors, Le Brio, donc film qui est sorti le 22 novembre 2017, réalisé par Yvan Attal avec entre autres Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yacine Ouicha. Donc c'est une comédie française. Neila Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neila au prestigieux concours d'éloquence. Petit clip.
L'art de bien dire, convaincre, avoir raison. La vérité, on s'en fout.
Ouais, c'est bien ça.
L'ultime stratagème. L'insulte. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel en l'attaquant grossièrement, en l'insultant. On y va.
Mais ça veut dire que...
Oui, ça veut dire que... Allez-y.
Vous êtes sûr ?
Attaquez-moi. Attaquez-moi personnellement.
T'as un gros nez. J'en peux plus que tu me parles à ça de la gueule. On dirait que t'as un renard crevé derrière les amygdales.
Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Le Brio ? Tu l'as vu quand d'ailleurs ? Je crois que tu l'avais vu dans la semaine.
Ouais, je l'ai vu vendredi matin, je crois. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Écoute, j'avais envie d'aller voir le film parce que je trouvais le pitch assez fort. Enfin voilà, la rencontre de deux mondes, tout ça. Un truc très... comment dire ? Très classique à bien des égards, mais en tout cas sur le papier qui me donnait envie... de voir le film. Par ailleurs, c'était réalisé par Yvan Attal, qui est pas un grand metteur en scène, mais enfin quelqu'un que je trouve intéressant de manière générale. Et donc voilà, donc je suis allé voir le film un peu comme ça, dans cette disposition d'esprit, sans en attendre des merveilles, mais sans non plus arriver avec l'arme au poing. Et j'en ai pensé du très bien et du très mal en fait. C'est-à-dire que genre c'est même quelque chose qui m'arrive assez rarement face à un film. Je suis capable dans ce film d'adorer une scène et d'en détester une juste après et d'en adorer une de nouveau et d'en redétester une de nouveau. Et c'est-à-dire que le film a c'est-à-dire tout à la fois cette force de réussir à me rattraper quand même tout le temps.
Il te perd jamais en fait. Enfin toi en tout cas.
Il me perd mais il me rattrape.
Oui, voilà.
C'est-à-dire il me perd totalement. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où je suis
révolté,
les yeux écarquillés face à l'écran, en me demandant si je viens bien d'entendre ce que j'ai entendu ou de voir ce que j'ai vu. Et en même temps, il réussit genre à me rattraper derrière tout le temps, quoi. Et donc du coup, je traverse le film un peu comme ça, en étant parfois amusé, parfois ému et parfois très agacé par tout ce qui se passe.
Et la pondération et de tout ça, du coup, c'est plutôt...
Et la pondération de tout ça, pour être tout à fait honnête, elle n'est pas encore très digérée. Je ne sais pas exactement comment je me positionne par rapport au film.
D'accord.
Mais je lui reconnais d'indéniables qualités et d'indéniables défauts.
le truc qui va le plus aider le monde. Ouais. Et c'est trop bien parce que bah, du coup.
C'est un bouquet garni, quoi.
Ouais, c'est un bouquet garni.
Non, mais j'allais justement demander à Fela, mais en fait, j'ai l'impression que tu vas dire exactement la même chose.
La même chose. Alors après, moi, je vais pas parler trop de la forme parce que je pense que vous en parlerez bien mieux que moi et que, enfin, voilà, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire. Je l'ai trouvé distrayant. C'est pas un film où tu te fais chier, c'est pas un film où tu passes ton temps à dire qu'il est mauvais, qu'il est nul et tout. Maintenant, le message que le film passe, il m'a un petit peu gênée aux entournures. C'est, enfin voilà, au bout d'un moment, tu te dis mais ils veulent vraiment dire ça, enfin, c'est quand même un peu gênant. Donc voilà. Après, moi j'ai bien aimé les acteurs. Je trouve qu'ils étaient, le jeu d'acteur, je l'ai trouvé plutôt juste globalement. Mais voilà, le fond m'a un petit peu mise mal à l'aise. Mais après, je dis pas qu'il va mettre à la poubelle non plus, quoi.
Le message, voilà. Je pense que c'est pas trop spoilé si on dit quel est le message, en fait, je pense, qui nous gêne. C'est le fait de pouvoir de dire que cette élève donc, qui vient de Créteil, qui est issue de l'immigration maghrébine, devenir... comme son prof, en fait,
ouais,
tout simplement, et lâcher tout ce qui a trait à son passé, en fait, tout simplement, plutôt que de continuer à être elle-même, quoi.
Voilà.
Voilà.
C'est pas tout à fait vrai, enfin, ceci dit ça.
Mais c'est quand même pas mal vrai.
Attends, on rentrera peut-être dans le débat de pourquoi et quelle scène peut-être te ferait penser que c'est pas tout à fait vrai. Parce que bon, il y a des choses à dire. Juste, Arnaud, vas-y, continue du coup sur d'accord. rapidement ce que tu.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec Fela pour le coup sur le discours. Il y a quelque chose qui m'a énormément gêné. Après, à la base, quand je rentre dans le film, moi, au départ, je suis un peu dans mes petits souliers parce qu'en fait, c'est une comédie romantique.
Mmh.
Sauf que il y a pas d'histoire d'amour entre le prof et l'élève. Et donc, ils ont rajouté une histoire d'amour un peu artificielle par-dessus pour essayer de combler ça. Mais sinon, la véritable relation du film entre les deux, c'est construit comme une comédie romantique, c'est-à-dire le mec bougon et la fille des banlieues, tu vois, qui va... Et normalement, en fait, dans ce genre de film, la personnalité de l'un déteint sur l'autre et à la fin ça fait un équilibre et les deux
trouvent une manière de vivre ensemble.
Voilà, trouvent une manière de vivre ensemble. Mais ce qui est étrange dans ce film justement
et
qui amène au discours, c'est que donc la jeune fille des banlieues change, mais le professeur facho d'université, ben pas du tout.
En tout cas, on nous le montre pas en fait. Le jeu des vases communicants là, tu vois pas les dilutions des deux côtés en fait. Enfin, tu le vois que d'un côté plutôt. Voilà. Mais je crois qu'en fait on a tous à peu près le même avis. Moi j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment le film en fait dans sa forme est plaisant. J'ai beaucoup aimé la musique. Je rentre juste dans des mini détails mais c'est bizarre. Je sais pas si c'était pareil pour vous, j'ai l'impression que le mixage son était bizarre parfois. C'était fait exprès d'entendre la musique un peu trop fort sur des moments où il parlait. Je trouvais que c'était bizarre justement, il fallait peut-être plus laisser la place
C'était peut-être ta salle qui était mal réglée là pour le coup, parce que moi ça m'a pas choqué.
Non, moi il y avait pas eu de problème.
Pour certains passages, je sais pas, je trouvais que la musique était peut-être pile un peu au niveau du volume trop présent. Mais Daniel Auteuil, excellent, vraiment. Camélia Jordana, je crois que c'est son premier film ultra nat.
Moi je mettrais un bémol sur Daniel Auteuil, mais
je vois le personnage.
Même si je pense que c'est pas de sa faute.
En fait, il y a un gros problème général quand même de dialogue dans ce film.
Et sur lui. Très principalement.
Et qui vient du fait qu'il y a énormément de scènes en fait où les dialogues sont uniquement expositoires en fait.
Et surtout il y a une tendance, mais alors ça, mais c'est un truc qui m'agace toujours dans les films, à surenchérir sur une idée dans une scène. C'est-à-dire que t'as une idée, tu la donnes, on l'a compris.
Tu peux pas le faire deux trois fois.
Et le truc c'est que la scène va te réasséner l'idée deux fois, trois fois, parfois avec une lourdeur quand même, mais je veux dire de poids lourd quoi. Et le truc, c'est que c'est très souvent Daniel Auteuil qui en fait les frais. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourra revenir en détail là-dessus quand on spoilera.
Mais là, du coup, effectivement, c'est dans l'écriture.
Mais je pense notamment à la scène de rencontre entre les deux personnages dans l'amphithéâtre. Je trouve cette scène d'une lourdeur infinie alors qu'elle pourrait ne pas l'être. Et c'est Daniel Auteuil qui doit se la tarter quand même. Je veux dire, principalement. Et du coup, Auteuil, il est mis en difficulté en fait par le scénario, et pas par le scénario dans ses grandes lignes dramaturgiques, mais vraiment par le scénario dans ses scènes. Et je trouve que c'est pas du tout le cas de Camélia Jordana, qui elle, genre, a dans l'ensemble une partition genre assez précise à jouer, et je trouve qu'elle s'en sort assez admirablement bien. Enfin, je vais même aller au-delà de ça. Je pense que c'est une sacrée révélation. C'est-à-dire que genre je l'ai vue et je me suis dit, ok, d'accord, en fait, c'est une grande comédienne.
Elle est très naturelle. Elle te fait vraiment vivre son personnage. Par contre, enfin, c'est ça moi que j'ai comme souci, c'est qu'à part ces deux personnages et peut-être la mère et la grand-mère du personnage de Camélia Jordana, les autres, je suis désolé, mais il faut mieux écrire ces scènes et puis il faut mieux les faire jouer, parce que la scène d'introduction ses amis de la cité, c'est
une catastrophe,
franchement. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient commencé par une scène de... Oui, bon, je risquais de spoiler. Bon, bref, il y a une scène un petit qui arrive un peu plus tard. En fait, si ça, c'était la scène d'introduction, bah, je l'aurais trouvé plus passable, en fait. Je parle du loup-garou, quand il joue le groupe. Mais bon, bref.
Mais moi, par exemple, la scène du loup-garou, c'est un carton rouge, mais rouge sang.
Mais moi, je trouve que le rouge sang, c'était là, vraiment, quand elle descend. Ah,
non, mais
voir
moi, non,
amis,
mais en fait, non, mais je vais t'expliquer pourquoi, genre, en fait, la scène du loup-garou me rend dingue. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, la scène du loup-garou. Attends, mais là, on rentre déjà dans les spoilers, quasiment.
Mais rentrons dans les spoilers. Mais alors, pour expliquer cette scène, parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est le loup-garou, c'est un jeu de société qui est basé sur le bluff et essayer de convaincre les autres de quelque chose.
Oui, grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que dans un groupe de personnes, il y a certaines personnes qui sont désignées loup-garous, les autres qui sont des villageois, et les villageois doivent déterminer qui sont les loup-garous, sachant que personne ne sait.
Et c'est une transposition parfaite de donc ses habiletés, ses compétences à convaincre dans un milieu, on va dire, ludique.
Absolument. C'est-à-dire qu'on voit exactement comment il s'agit d'une idée de scénariste, quoi.
Oui, voilà.
Ce qui est pas péjoratif, hein, du tout dans ma bouche. Je veux dire, ça peut être au contraire très bien. Mais c'est-à-dire que en effet, c'est comment tout à coup, dans le milieu intime de cette fille et dans son environnement d'origine et avec ses potes et tout, on va pouvoir aller réinvestir la question de l'intrigue principale et du discours qui se déploie, mais pas chez elle. Sauf que le problème, c'est que pour faire ça, si tu veux, ils font venir un élément qui est donc ce jeu du loup-garou. Et le loup-garou, mais déjà, je vous garantis que genre personne en banlieue ne jouerait jamais au loup-garou, parce que c'est un truc genre de geek, hipster, genre parisien / geek, genre qui joue au loup-garou. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que en plus de ça, en fait, des jeunes adultes de cet âge en banlieue, genre, se retrouveraient pas pour jouer à un putain de jeu de société, genre, chez l'un d'entre eux, en fait. Juste, ça n'existe pas, en fait. Faut le savoir. Donc, du coup, moi, si tu veux, genre, quand je vois cette scène, genre, je passe mon temps, genre, à sentir à quel point, genre, elle est, en fait, son élément structurant est absolument exogène à ce monde-là, quoi. Et du coup, je vois à quel point ce film, en fait, est écrit. Et je le dis genre un peu péjorativement là en l'occurrence, mais écrit par des bourgeois parisiens, quoi. Et ça me saute aux yeux, ça m'écorche les oreilles tout le temps, et je trouve que c'est affreux vraiment dans cette scène, quoi. Et c'est criant. Ça peut l'être à d'autres endroits, mais là c'est vraiment pas possible, quoi.
Et si je peux rentrer dans une technicalité du jeu du loup-garou, hein, quand on tue un villageois par erreur, le jeu continue, donc tu révèles pas que t'es le loup-garou. Voilà. mais je vois ce que tu veux dire. Après voilà, c'est de toute façon un peu le souci dans ce film, c'est que le versant cité est très mal exploité, quoi.
Je sais pas s'il est très mal exploité. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il a voulu surtout pas tomber dans des clichés.
Ouais.
Il a voulu, tu vois, mettre ces personnages qui n'étaient pas des personnages caricaturaux. Notamment le personnage de la mère. Tu vois, c'est pas anodin qu'elle soit célibataire, que elle rentre, elle lui dit j'en ai rien à foutre, fais-toi à bouffer toute seule, et elle se casse pour sortir, faire sa vie, si tu veux. Donc, mais j'ai l'impression qu'il a voulu vraiment absolument pas tomber dans la caricature. Après, il y tombe quand même un petit peu.
Ouais.
Mais
Où ça?
Bah, dans les rapports, en fait, pas dans le moment où elle a des rapports avec son milieu à elle, mais c'est après, je trouve, qu'il tombe dans son personnage à elle. Des fois, il est un peu caricatural. Dans la scène de fin, moi, je la trouve hyper caricaturale aussi.
Ouais.
tu vois, où il est quand même un peu obligé de tomber dans les stéréotypes, quoi.
Oui.
Il y a d'ailleurs, moi, ça me fait penser, on l'avait évoqué, mais il y a une scène que je trouve plutôt réussie, qui est justement chez la grand-mère.
Oui.
Où en fait,
sa femme.
Ouais. Ouais. Et où en fait on voit les trois générations.
C'est
donc,
elle est
super cette scène. Moi,
celle qui est l'immigrée, qui est donc la grand-mère, qui elle est venue en France et comment elle a vécu sa vie avec ces traditions-là. Sa fille à elle, donc la mère du personnage principal, qui elle est devenue une mère célibataire active, qui a pas le temps forcément de s'occuper de tout comme le faisait sa mère pour elle-même. Et la dernière génération donc de la fille, et là où en fait il y a un mélange où tu vois qu'il y a un dialogue avec sa mère, où sa mère grosso modo elle lui dit ben écoute c'est comme ça, il faut que tu t'écrases. Et où il y a sa fille qui lui dit mais en fait je vois pas pourquoi je suis française, je suis née ici. Et en fait je trouve que en une scène il résume très très bien,
ouais, comme ça,
toutes ces différentes générations d'immigrés, ouais, de issus de l'immigration, etc., etc. Et c'est une scène d'ailleurs beaucoup plus fine que la plupart des scènes du film pour essayer de parler de ça, et que j'ai trouvé ouais.
Ouais, je suis totalement d'accord.
Exactement. Après voilà, il faut adresser un truc, donc voilà, c'est ce qu'on disait, le fameux message qui pourrait transpirer de tout ce film. Moi je me souviens voilà d'une des premières scènes en gros où Daniel Auteuil reproche un peu sa tenue vestimentaire à Neila, lui dit en fait ne deviens pas comme les autres, lui reproche son panurgisme, et en même temps au final ben si, elle devient comme les autres pour réussir. Donc il y a de ça, il y a aussi, ça me fait marrer quand il y a une scène qui est assez premier degré, je trouve, quand il lui reproche la victimisation des gens des cités, sachant que bon, le dernier film d'Yvan Attal, c'est ils sont partout, quoi. Donc, si tu veux.
Non, mais surtout, ce qui est étrange, c'est que le personnage qui est filmé comme la plus grosse victime, c'est Daniel Auteuil,
oui.
victime de la bien-pensance ambiante, quoi.
Oui. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que le personnage de Daniel Auteuil est raciste?
Ouais.
Oui, mais il l'est clairement.
Alors, il est raciste, mais dans le film, si tu veux, moi, je l'ai perçu comme 100% raciste. Mais dans le film, le message que j'ai ressenti, qu'on essaie de te dire, c'est « Oui, mais en fait, il n'est pas vraiment raciste. C'est de la provocation. »
Voilà.
T'as une espèce de pondération de son racisme, de dire, et quelque part, finalement, de dire « Donc, c'est pas très grave. »
On essaie de le rattraper, mais quand même, tout ce qui sort pendant tout le film, où tu te rends compte, on devrait l'excuser.
Oui.
Et pourquoi, quoi? Mais parce qu'en plus, si tu veux, sur le message, moi je trouve qu'il y a un truc, c'est Yvan Attal, en fait, il te donne la grille de lecture du film dès le départ. C'est le film, en fait, il s'ouvre sur des clips vidéo, ouais, de passages télévision de différentes personnalités qui parlent tous de ce sujet-là. Et il y a notamment une célèbre interview de Jacques Brel.
Ouais.
Où en fait Jacques Brel explique que grosso modo il dit moi je sais qu'il y a des gens en fait qui se contentent de peu, c'est-à-dire ils sont ignorants et ils restent dans leur petite vie, alors qu'il y a toujours beaucoup plus de choses à apprendre, beaucoup plus de choses à, et en fait il dit que c'est de la paresse et que c'est comme avoir de la graisse autour du cerveau et qu'il faut sortir de là. Donc ça c'est la grille de lecture du film, et ce que nous dit Yvan Attal dans ce film, c'est grosso modo que si en fait les gens des cités
se sortaient les doigts du cul
des positions, ouais, supérieures, c'est parce qu'ils se sortent pas les doigts du cul, qu'ils pourraient le faire et qu'ils choisissent de ne pas le faire. Et c'est pour ça que c'est un film, le film en lui-même, le personnage de Daniel Auteuil, je le trouve raciste. Le film, je pense pas qu'il soit raciste. En revanche, je pense que le film est profondément de droite.
Ouais. Oui, c'est un film macroniste à fond. Enfin, je veux dire, c'est presque le premier film de la France Macron. Enfin, vraiment, je me le suis dit en voyant le film. Non, après le seul tout petit bémol que je mettrais sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement elle tourne le dos à son monde et rentre dans ce nouveau monde et en adopte tous les codes, j'y mettrais deux bémols quand même. Le premier, c'est que elle reste quand même en couple avec le mec avec lequel elle est au départ et qui est un type qui est pas de ce nouveau monde.
On sait pas finalement, à la fin, c'est
quand même ce que nous dit le film. Hein.
C'est quand même ce qui est sous-entendu.
C'est quand même ce que nous dit le film. Oui. Après, on peut discuter genre, si on veut, hein, mais je veux dire, en tout cas, le film ne laisse entrevoir rien d'autre que ça. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que du coup, elle met quand même ensuite les talents oratoires qu'elle a acquis pendant le film au service de gens de sa communauté, puisqu'on voit ensuite qu'elle est devenue avocat commis d'office et qu'elle leur apprend à se servir du discours pour se sortir de mauvais pas.
Moi, c'est l'épilogue, ça.
Ça change rien au fait que le film est de droite et macroniste, tout
oui,
ça.
Parce que si tu...
mais,
si,
non,
si,
oui,
si.
Non, bien sûr, voilà. On est d'accord. Mais je voulais juste apporter cette petite nuance quand même sur le fait qu'elle a pas non plus tourné le dos à sa communauté.
Eh bien, moi,
je
suis pas d'accord.
Enfin,
moi, je suis pas du tout d'accord parce que, déjà, la scène finale, la meuf, elle arrive avec des escarpins et les cheveux raides. C'est pas anodin que pendant tout le film, elle ait ses boucles, ses cheveux un peu sauvages. À la fin, elle a son broche et ses escarpins.
Elle est devenue...
Et en fait, si tu veux, moi, j'ai un peu l'impression... Le film, je le vois un peu comme Daniel Auteuil qui a dressé Camélia Jordana pour la faire rentrer dans le moule. Et du coup, maintenant, à la fin, tu vois que son rôle, maintenant qu'elle est dans le moule, c'est de faire que les autres rentrent dans le même moule. Et pour que les autres rentrent dans le même moule, elle va utiliser les codes qu'elle a, donc ses codes d'origine, mais elle les utilise uniquement... pour expliquer au mec que, de toute façon, comme il fait, c'est de la merde, et qu'il ferait mieux de faire comme les bons petits Français font. Donc, si, elle renie complètement tout ce qu'elle était derrière, quoi, en lui disant, ne sois pas comme tu es, et sois plutôt comme les dominants sont.
Je rajouterais d'ailleurs à ça qu'en fait, toutes les compétences, c'est que des compétences qu'elle a acquises grâce à Daniel Auteuil. Et en fait, on en parlait juste après avoir vu le film, ce qui est dommage, c'est de ne pas nous avoir montré dans cette première scène que tu décriais de la rencontre, en fait, lorsque Daniel Auteuil la prend à partie quand elle arrive en retard dans l'amphi. On aurait dû nous montrer un peu plus déjà de talent oratoire de sa part, en fait, pour me dire, ah, il y a peut-être quelque chose déjà qui pourrait dire aussi à Daniel Auteuil, tiens, on peut en faire quelque chose, cette meuf, parce que on est d'accord, c'est un amphi de 1000 personnes, c'est la première année, donc ça veut dire que tout le monde vient d'avoir son bac, excuse-moi. Donc si tu veux, montre-moi qu'il y a quelque chose de plus.
Et surtout que la bonne culture aussi, c'est la culture, c'est-à-dire que les trois auteurs qui nous sont cités pour développer la culture de Camélia Jordana dans le film, c'est Schopenhauer, Cicéron et Aristote. C'est-à-dire vraiment européen et grosso modo, tu dois absolument abandonner toute cette mauvaise culture en fait qui vient de chez toi pour prendre la nôtre. Et si tu l'adoptes, tu pourras être
franchement. Ils auraient pu le mettre Sun Tzu, franchement, à la limite. Tu vois, non mais vraiment, ce serait resté à peu près dans le schéma de droite. Je manipule les gens et je veille à la guerre. Mais au moins, on fait semblant de prendre des gens qui sont pas de cette culture-là.
Mais surtout, ils discutent un plus. Et j'aimerais parler de ça parce que je suis passé par là. C'est-à-dire que j'ai fait des matchs de débat comme ça dans ma jeunesse.
Tu as défendu la solution finale, il faut le dire.
quand j'étais à l'école de commerce, et en fait ce qui m'avait choqué la première fois que je faisais ça, c'est que donc il y avait un sujet et tu devais tirer au sort si t'étais pour ou contre.
Oui.
Et c'est quelque chose qui m'avait énormément choqué, c'est-à-dire que vraiment, et ça il le souligne dans le film, et c'est ce qui est intéressant en fait dans ce sujet, c'est-à-dire peu importe que ce soit juste ou faux, ce qui est important, c'est de convaincre. Et je trouve que le film va pas assez loin, en fait, dans l'exploration.
Revenir sur un petit truc, sur ce que tu disais là, de dire qu'il n'y a pas... Je trouve que ça aurait été intéressant de mettre en exergue le fait que des talents oratoires, il y en a, pas que dans la culture dominante. C'est-à-dire que tu peux pas mettre de côté tout le talent oratoire qui va dans les banlieues, quand même, en termes de maîtrise de la langue, même si c'est pas la maîtrise de la langue classique, mais dans le rap, t'as quand même une maîtrise de la langue qui est très intéressante.
T'as des talents.
J'ai un élément d'information à apporter à la discussion ici, sur ce point précis. Parce que je parlais du coup du film, avec un producteur et qui me disait en fait, qui lui connaissait très bien le scénariste, un des scénaristes du coup, parce qu'il y a un paquet de scénaristes.
Ah bon ?
Mais un des scénaristes, et qui en fait me disait que au départ en fait le personnage principal était une rappeuse. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette scène qui est très très bizarre, mais qui est une scorie de ça, qui est le moment en fait où après la séquence d'amphithéâtre, on la voit marcher dans le métro et rentrer chez elle. En fait, on l'entend genre dire une sorte de texte qu'on entend pas de manière si nette, mais elle a l'air d'être en train de rapper quelque chose. En fait, c'est une scorie de cette caractérisation qu'avait le personnage au départ, à savoir que c'était une rappeuse et que c'était quelqu'un qui maniait le verbe,
c'est institutionnalisé. C'est parce qu'il y a le battle aussi dans le rap
Alors
après, moi pour le coup, s'ils en avaient fait une rappeuse, ça m'aurait fait chier parce que là, on rentre encore dans le stéréotype, tu vois.
Oui, mais t'es dans la culture, mais en fait, tu pouvais utiliser le talent du rap sans qu'elle soit rappeuse ou pas, tu vois, enfin, elle est quand même empreinte de cette culture-là. Culture. Et là, ça, tu le vois pas du tout.
Mais oui, si tu nous avais montré qu'elle écoutait du bon rap dès le début, avec par exemple des textes intéressants, etc. Mais encore une fois, c'est juste cette première scène montre-nous qu'elle est spéciale aussi et qu'elle va apporter son côté, son addition à tous ces talents qu'elle va acquérir dans la suite du film.
Parce qu'à part là de l'insolence, c'est tout ce que tu vois d'elle.
Par rapport à ça, en fait, il y a quelque chose que je trouve quand même vraiment problématique dans le film sur cette question du discours. Et c'est pour du coup poursuivre sur ce que tu disais, Arnaud. C'est que finalement, le film essaie de poser très tôt la question d'une opposition entre avoir raison et être dans le vrai. C'est-à-dire, avoir raison, finalement, c'est juste réussir à faire la démonstration rhétorique que l'on a raison dans une situation donnée, et être dans le vrai, c'est précisément réussir à toucher du doigt la vérité par le discours.
Parce que d'ailleurs, il y a quelque chose... Attends, juste, je mets une petite parenthèse, c'est-à-dire que le texte en fait, qui sert de structure au cours, c'est un texte de Schopenhauer sur l'art d'avoir raison. Et en fait, c'est il ne parle jamais que en fait c'était surtout un discours critique à utiliser pour essayer de démolir les gens qui utilisaient ce genre d'argument pour essayer de
absolument.
Et dans le film, c'est utilisé comme un manuel et pas du tout comme un outil critique.
C'est totalement utilisé comme un manuel, c'est-à-dire c'est-à-dire à un point où en fait le film conclut quand même sur cette idée que ben finalement quand même ce qui compte c'est juste d'avoir raison. C'est-à-dire c'est de maîtriser l'art de la rhétorique à un point d'incandescence où on pourra de toute façon leur étouffer n'importe quel discours, même un discours vrai, parce que simplement on aura une articulation plus fine et plus précise de son propre discours.
Faut le souligner pour avoir pas mal d'amis dans le droit, c'est malheureusement vrai. Et ce qui du coup dans ce film nous fait voir la justice française comme de la grosse merde, quoi.
je dis pas que le discours est pas une arme puissante et que dans le droit en particulier c'est pas un endroit où il y a un espace d'expression très fort pour ça. mais ce que je voulais dire surtout c'est que en fait il y a un autre truc qui m'a dérangé par rapport à ça, c'est que Le film a une manière un tout petit peu simpliste d'opposer, de mettre dos à dos, disons, la sophistication du discours et de finalement genre comment on pourrait se perdre dans cette sophistication versus la simplicité genre des choses vraies, quoi. C'est-à-dire que parce qu'à un moment donné il y a une opposition entre le personnage principal qui du coup à force finalement de se gargariser de sa capacité petit à petit à maîtriser le discours et tout finit par en oublier par exemple de prendre soin de sa relation amoureuse avec le gars avec lequel elle est qui s'appelle je sais plus comment
Mounir.
Qui s'appelle Mounir exactement et lui, du coup, est posé comme une sorte de parangon de vérité, puisque et il lui dit d'ailleurs à un moment donné, il lui dit mais moi peut-être que je parle pas bien, mais au moins je dis ce que je pense. Et même si genre quand ça se produit, je trouve ça intéressant et ça me parle plutôt. Je trouve qu'il y a un énorme blind spot dans le film qui est que en fait apprendre à discourir et apprendre à sophistiquer son discours. C'est aussi une manière de s'approcher de la vérité, en fait. De la vérité de ce qu'on éprouve, de la vérité avec laquelle, je sais pas moi, telle situation genre peut nous sembler scandaleuse, etc. Et en fait, je trouve que le film passe un tout petit peu à côté du fait que le discours, c'est aussi une arme pour réussir à circonscrire petit à petit la vérité, et que en fait, toute pensée vraie n'est pas simple, en fait. Il y a des pensées vraies qui sont extrêmement sophistiquées, extrêmement complexes, Et que la maîtrise de la langue et la maîtrise du discours, c'est aussi quelque chose qui permet de l'atteindre.
Ça. Oui, mais pas seulement. Et c'est-à-dire que dans le film, la langue, elle est utilisée comme un outil d'oppression. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de recul, parce qu'il y a quelque chose de super intéressant qui est dit à un moment donné. C'est ce truc de dire les chauffeurs Uber se sentent obligés en fait, d'utiliser la langue des dominants pour donner l'impression d'être là. Et ils l'utilisent mal.
Oui.
Et en fait, c'est tout ça juste pour amener à une scène qui est montrée comme un gag, où à un moment, ils prennent un chauffeur Uber, et le chauffeur, en fait, commence à utiliser un discours un peu fleuri, mais où il se répète énormément à l'intérieur. Et en fait, les deux personnages, donc Daniel Auteuil et Camélia Jordana, se regardent et se moquent de lui.
Il fout bien de sa gueule.
Ouais.
Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, la langue apprend à l'utiliser, et après, utilise-la comme une arme pour oppresser les autres.
Ouais, bien sûr.
Et alors, en fait, c'est ça le problème, c'est que le vrai sujet, quand tu traites de choses comme ça, de cultures différentes, etc., le vrai sujet, ça aurait dû être d'un peu gifler l'impératif éculé de « tu dois maîtriser la langue », mais plutôt « tu dois communiquer ». Tu vois, juste si on était plus passé pas dans le langage et dans la maîtrise du langage, mais juste dans la communication, et peut-être articuler un petit peu les deux choses à la fois, de pouvoir dire « mais en fait, ça... » s'adapter vraiment à la personne à qui tu vas parler et que peut-être elle, comme elle connaît un autre milieu social, ça va l'aider à utiliser cette maîtrise de la langue à faire autre chose, tu vois. Bah, c'est monodirectionnel, quoi. C'est-à-dire que vraiment, la langue, c'est juste pour te permettre de venir chez nous, les riches, importants, et c'est tout, quoi.
Franchement, j'ai été un petit peu déçue par cet aspect-là du film. Les moments de joute oratoire, les moments, tu vois, où... Et à aucun moment, t'es épaté par un discours ou tu vois où t'es convaincu par un discours. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu léger, en fait. Tous les moments, tu vois, qui sont censés être des moments d'éloquence, je les ai trouvés, ouais, à part le fait qu'ils utilisent des mots compliqués, quoi.
Et je me souviens d'ailleurs que Arnaud, tu me disais, tu l'avais fait à un moment, je crois que tu avais dû défendre, c'est quasiment presque pas une blague ce que je disais tout à l'heure sur le film, je crois que tu avais dû défendre l'utilisation de la bombe atomique.
Ouais.
Et du
coup,
moi, j'aurais bien aimé voir la protagoniste faire un truc un peu horrible comme ça, mais finalement être applaudi par juste sa rhétorique, tu vois, ça aurait été assez drôle et on aurait souligné le cynisme du truc et on aurait été peut-être époustouflé, comme tu disais, par quelque chose comme ça, comme un petit peu comme dans des scènes dans 8 Mile, quoi, justement, pour repartir sur des rappeurs.
Oui, parce que c'est-à-dire que le fond du discours lors de ces débats n'intéresse pas Yvan Attal, en fait. C'est-à-dire que jamais à aucun moment on l'installe comme un véritable enjeu, alors que ça aurait pu être le cas, ça aurait pu même être intéressant, ouais, c'est sûr. Ouais. Et en fait, ça amène toujours à ce même problème que la relation de base, c'est qu'Amélia Jordana a beaucoup à apprendre de Daniel Auteuil, mais Daniel Auteuil n'a rien à apprendre de Amélia Jordana.
Oui, c'est vrai. C'est assez vrai.
Du coup, voilà, pour continuer sur la question que je vous ai posée, bon, vous me dites oui, c'est un personnage raciste, mais la question c'est est-ce qu'il est raciste à la fin ? Toujours ou pas ? Bah, s'il a pas changé, oui, en fait.
Ouais,
mais du coup, Neila, c'est son petit animal domestique, en fait. Non, mais s'il est raciste, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Mais c'est-à-dire, tu vois, il est raciste, mais il est pas raciste FN. Il est ce racisme ordinaire,
oui,
tu vois.
Il est présenté comme un. Genre, le raciste, mais c'est de la provocation, donc c'est pas du vrai racisme. Donc, en fait. Alors, je lisais un truc, d'ailleurs, on parlait de Twitter dernièrement. Il y a un mec qui était un doctorant en sociologie qui a fait un truc sur l'humour et qui démontrait plus ou moins que si tu fais juste de la provocation sans le second degré de pouvoir souligner que le racisme c'est complètement absurde, ben en fait c'est raciste,
c'est
quand même
raciste.
Parce que tu ne fais que perpétuer le truc. Et en fait c'est ce qui se passe.
Ouais, tout à fait.
Il y a des fois où, en fait, non. Il y a des fois où c'est une provocation. Alors, pas sur le racisme, mais on va dire peut-être sur la culture de dénonciation des racistes. Mais si tu fais que ça tout le temps, ben non, en fait. Au final, t'es raciste.
Ouais.
Donc c'est ça le problème, c'est que présente-le comme un vrai raciste, tu vois, ou pas comme un, je sais
mais
pas.
Mais même, non, le fait qu'il soit juste ce genre de raciste, moi je trouve ça intéressant, parce que moi ça me saoule de voir tout le temps caricaturer le facho comme le bidochon du PMU qui vote FN, enfin voilà, c'est aussi intéressant de dire, bah ouais, le racisme c'est aussi ça, c'est aussi ces mecs-là, et enfin voilà. Après, moi, c'est ce que je te disais en sortant, j'ai tout le temps l'impression que le discours qu'on nous sert là aussi, c'est... quelque part, il est raciste, mais comme il est bon prof, c'est pas grave.
Ah oui.
Et c'est tout le temps, tu sais, le truc de séparer...
Roman Polanski.
Voilà, Roman Polanski. Vraiment, tu vois. De séparer le professionnel de la personne. Tu peux être le dernier des fachos et des misogynes, parce que, tu vois, la petite scène où, avec l'interaction avec la meuf et la crotte de chien, tu te rends compte que le mec, il est quand même un peu miso assez rapidement. Enfin, bon, bref.
Oui, c'est vrai, en plus.
Mais
ouais,
c'est pas grave, comme t'es un bon prof... on s'en fiche, tu vois. Et ça, c'est un discours qui me gêne. Et puis aussi, ils sont pas obligés de devenir amis, quoi. À la fin, ils se font des câlins et tout. T'es là, non mais non, enfin, tu vois.
C'est vrai qu'à la limite, si tu dis, on a parfois besoin de gens qui ont des pensées merdiques, mais ils sont compétents dans un truc et ils peuvent servir la société. Tu vois, genre en mode opération Paperclip, on a pris des nazis, mais ils savaient faire des fusées, tu vois. franchement, c'est une idéologie. Quelque part, ils ont eu raison, hein, on envoyait des gens sur la Lune grâce à eux, tu vois. Mais du coup, ok. Mais t'es pas obligé non plus de leur apporter le lait en souriant, tu vois, à ces gens-là.
Mais de l'absoudre, surtout. Enfin, moi, c'est... Oui. Dans le film, c'est une absolution. Tu vois, pour moi, l'absous quand elle y va, elle dit ok, il est pas très cool, mais quand même, c'est le meilleur des profs que j'ai jamais eu, donc le virez pas. Enfin,
ouais, c'est vrai. Enfin, plus cette discussion va, plus je. Je sais pas, j'allais donner une bonne note, mais je sais pas.
Oui, et d'ailleurs, dans cette séquence, comment dire, la séquence finit de manière assez étonnante, puisque dans la scène suivante, finalement, Camilla Jordana lui dit. Lui dit pas que ce qu'elle a dit sur lui c'était vrai. Elle lui dit juste que ce qui était important dans ce moment-là c'était d'avoir raison.
Ouais.
Et à nouveau, enfin, on est toujours sur le fil, quoi, sur cette question de qu'est-ce que pensent vraiment les personnages. Finalement, en fait, elle a juste parfaitement intégré la maîtrise du discours et du coup, ça lui a permis de sortir cet homme à qui elle a le sentiment de devoir quelque chose parce que sinon elle serait pas là. Ouais. Et que du coup elle le sort de la panade pour ça, mais est-ce que c'est parce qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit de lui ou est-ce que c'est simplement parce qu'elle a le sentiment de lui devoir quelque chose?
Mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a vraiment aucune remise en question de Daniel Auteuil, parce que bon, le film, la structure du scénario, elle fonctionne plutôt, tu vois, mais en revanche elle est vraiment cousue de fil blanc, c'est-à-dire que dès le départ il y a une information que le spectateur a, mais que l'héroïne n'a pas, c'est qu'en fait, il veut coacher Camélia Jordana pour pouvoir se sortir d'un mauvais pas auprès du rectorat.
Ouais, absolument.
Et t'attends depuis le début du film le moment où elle va savoir la vérité, où il va y avoir un conflit entre les deux à cause de ça, et tu te dis, ah, mais en fait, finalement, lui aura changé, il va s'excuser auprès d'elle, et puis ça va sortir.
C'est tout le truc de la
comédie. Jamais.
En fait, c'est ça le plus
gros problème. Il ne s'excuse jamais, c'est-à-dire, elle lui dit, je sais pourquoi tu as fait ça. Lui ne dit plus rien et il n'en reparle même pas à la fin. C'est-à-dire, il n'a même pas à s'excuser. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on arrive loin à ce truc mais il a rien à se reprocher parce que le type n'a même pas à s'excuser pour pouvoir.
C'est intéressant sur ça parce qu'en fait, le récit a quelque part un problème dramaturgique délicat à négocier et c'est pour ça, à mon avis aussi, qu'ils se sortent pas de ce truc-là ou qu'en tout cas, ça les met en difficulté. C'est que, en fait, typiquement, quand t'arrives à la fin de l'acte 2. Qui est ce moment-là, quoi, ce moment où tout à coup la relation éclate. Pourquoi ? Parce que genre le mensonge est révélé et qu'on se rend compte que finalement ce professeur qui donnait le sentiment de juste faire son travail de professeur en fait servait une cause personnelle. Explose au grand jour. En fait, la résolution devrait être du côté du personnage d'Auteuil. Tout simplement parce que c'est lui qui est en faute. Enfin, je veux dire, dans un récit, c'est toujours comme ça. C'est lui qui, du coup, genre, se retrouve face à un dilemme, c'est-à-dire se mettre en tort et reconnaître ses torts de manière à pouvoir soigner, enfin, peut-être renouer, en tout cas, avec cette fille à laquelle il s'est attaché pendant le film, ou ne pas le faire, rester drapé dans la certitude qu'il avait raison de faire ce qu'il a fait, et en même temps, du coup, sacrifier sa relation avec l'héroïne. Et le problème, c'est que, du coup, en fait, c'est pas l'héroïne qui a sur elle le dilemme, en fait, c'est lui. Et en même temps, du coup, genre, l'héroïne, c'est elle, donc il reste avec elle. Et ils se sortent jamais de ce truc-là.
Il
pouvait
y avoir un changement de point de vue.
Il aurait fallu faire ça en fait. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire ce truc pas orthodoxe, mais faisable
en effet. Parce que là, c'est-à-dire qu'il consistait à changer de point de vue. C'est même elle qui doit prendre l'action d'aller le sauver de son seul fait, alors qu'il n'a même pas fait de pas auprès d'elle. C'est compliqué, quoi.
Mais en fait, pile à ce moment-là, il aurait dû avoir une scène où lui allait demander de l'aide, du coup, à Neila et en profiter pour avoir une discussion sur le racisme entre les deux, en fait. Ça aurait été génial que, par exemple, sa mère, et ben en fait, tu réalises que, je sais pas, elle est hongroise ou un truc comme ça, tu vois, et qu'en fait, lui, il est issu de l'immigration, je sais pas, il le cache à des gens, tu vois, ce serait cousu de fil blanc aussi, mais genre, là, au moins,
la tâche.
Tu comprends, enfin, je sais pas, il pourrait expliquer, du coup, son comportement tout le temps provocateur, et peut-être évoluer grâce à une discussion avec Neila. C'est pas le cas, et donc du coup, comme tu le dis, voilà, on retombe sur, on n'a pas changé.
Et en plus de ça, le film, le scénario ici, genre fait quand même un tour de force. C'est-à-dire que, en fait, il essaie de nous faire croire dans la discussion qu'il y a sur le pas de la porte de l'appartement de Mounir, que finalement la question qui se pose, c'est simplement la réconciliation avec Mounir, donc pour le personnage principal, et le fait d'aller ou non discourir dans la finale de ce concours d'éloquence, quoi. Et ensuite, tout à coup, il y a donc ce moment où elle arrive dans ce qu'on croit être la finale du concours d'éloquence, convaincue par Mounir d'y aller. Et en fait, non, pas du tout. Elle débarque dans ce conseil de discipline qui a lieu genre pour punir Pierre Mazard, là, donc le professeur interprété par Auteuil. Et ça, c'est quand même un sacré tour de force, quoi, qui du coup passe complètement sous silence. Enfin, la question de, mais en fait, juste pourquoi elle se pointe à ce conseil de discipline pour lui sauver les miches.
Déjà, et... comment elle est, techniquement, comment elle est au courant qu'il se passe là à telle heure.
Mais ça, à la rigueur, on peut passer outre. Enfin, ça, c'est typiquement des informations, genre la suspension d'incrédulité peut fonctionner sans.
En tant que spectateur, on est un peu frustré aussi de. C'est anticlimactique de pas voir la finale, quoi. Tu vois ?
Oui, mais après, moi, je trouve que c'est peut-être le moment qui est pas cousu de fil blanc du film et où ça peut rendre le truc un peu plus intéressant. Moi, ça m'aurait fait chier si elle était arrivée et que finalement, tu vois, elle serait arrivée au dernier moment en courant, qu'elle aurait pu faire le truc, qu'elle aurait gagné. Ça aurait été chiant. Tu vois, ça aurait été vraiment prévisible
après,
de A à Z.
Fallait nous mettre un truc original, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire.
Ouais, mais si tu veux, c'est répercuté sur aucune. Sur aucune chose, c'est-à-dire que à ce moment-là, on nous dit pas ah oui, mais en fait finalement ces trucs d'éloquence, c'est un peu de la merde parce que de toute façon ça ne parle pas de la vérité. On essaie juste de convaincre et c'est pas ça en fait qui me motivait à la base,
oui,
tu vois, faire le métier d'avocate ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça puisque à la fin on nous dit clairement que si c'est ça.
Mais en fait regarde, mais ce que tu viens de dire, si elle arrivait à la finale et qu'elle disait ça et qu'elle se barrait, ce serait génial.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je
fais pas ce concours parce que c'est de la merde. Et je pense que on met tellement de révérence à notre capacité à convaincre en oubliant la vérité que c'est de la merde. Au revoir, mic drop, et ce serait génial.
Non, mais ça aurait pu, t'as raison. Ah, ou après elle aurait. Enfin, le récit aurait aussi pu se dérouler comme il s'est déroulé, mais à condition que du coup, en sortant du conseil de discipline, en fait, elle l'envoie chier vraiment pour de bon, quoi. C'est-à-dire. Le film aurait pu se terminer comme ça, c'est-à-dire je suis venu te sauver les miches parce que j'estime que tu m'as donné quelque chose et que du coup, j'avais une dette envers toi. Mais genre ma dette est payée et genre salut en fait.
Ouais.
Et en fait le problème c'est que à partir du moment où elle lui pardonne sans aucune bonne raison.
Ouais.
En fait tout à coup genre le film nous assène.
Parce que
mais sans aucun bémol.
Tout ce que tu disais tout à l'heure.
Mais parce qu'il y a un truc en plus qui est pas développé même sur le personnage de. C'est-à-dire on nous le montre vraiment comme quelqu'un de très seul. Hein. Le soir il va voir tout seul dans le bar. Il a pas d'interaction avec et donc en fait si tu veux on imagine que c'est genre la première relation sincère qu'il a peut-être depuis des années en fait,
absolument
et ça aurait pu être vraiment quelque chose d'important et de développer justement sur ça mais
il aurait fallu que ça se déploie de manière plus sophistiquée dans le dernier acte du film pour qu'on puisse comprendre ce qui se joue autour du personnage puisque le truc c'est que t'as raison il y a ça au début sur le personnage c'est-à-dire que on le montre comme une sorte de misanthrope enfin une sorte de je sais pas, pour moi, ce serait Alain Finkielkraut, mais qui aurait aucun ami, tu vois.
Il a des amis, tu crois?
Et le truc, si tu veux, c'est que genre, j'aurais envie de voir dans le film, éventuellement, si le personnage, du coup, prenait plus d'épaisseur, comment, au contact, en fait, de cette fille, et ben, sa vie va un peu changer, quoi. Et ça, en fait, on le voit jamais. Et il en est jamais question du tout.
Mais tu crois pas, j'ai l'impression, qui est une scène coupée avec cette même meuf qui trimballe
son chien. Je me suis posé la question
parce que c'est pas
absolument.
Possible.
Je me suis posé la question.
Ça
je
sonne me suis posé vraiment la question. Comme un... Ouais. Enfin bon. Alors moi ma question c'est aussi ça. C'est bon voilà. On a trouvé 1000 idées pour changer ce film. On dit que le message est pas bon. Mais comment ça se fait que je peux pas dire que ce soit de la merde quoi. Tu vois. J'ai quand même trouvé ça pas mal en fait. C'est ça le problème. Je sais pas pourquoi. Est-ce que juste comme tu disais les scènes qui m'ont peut-être un peu ému ou les scènes qui fonctionnaient.
Mais parce qu'il y a des scènes qui sont vachement bien et en même temps qui sont souvent pas bien amenées. Moi, par exemple, il y a une scène que j'ai trouvée magnifique aussi parce que Jordana est fabuleuse dedans. C'est la scène de restaurant qui arrive après, je crois, la demi-finale du concours d'éloquence où tout à coup, en fait, elle explique à Daniel Auteuil pendant ce dîner du coup qu'elle est amoureuse, qu'elle est amoureuse donc d'un garçon qui s'appelle Mounir, qui est un chauffeur Uber, et elle lui explique pourquoi elle est amoureuse de lui. Et ce qu'elle dit de Mounir est magnifique.
Oui.
C'est très très beau. C'est-à-dire, c'est un monologue admirablement écrit. Et franchement, quand je l'écoute, j'ai beau genre ne pas connaître et ne pas avoir vu en amont tout ce qu'elle raconte de Mounir, ça me touche. Le fait est que c'est dommage qu'on n'ait pas vu plus de choses en amont sur Mounir parce que tout à coup quand elle dit par exemple de Mounir que ses mots sont aiguisés comme un sabre, je suis en mode ok. Je veux bien, hein. Il y a moyen que ce soit vrai, mais en même temps vous me le montrez pas. Et à nouveau, ça c'est une scorie très probablement de version de scénario antérieur dès lors que cette histoire de rap là est avérée. C'est-à-dire qu'en fait Mounir c'est un rappeur dans une version antérieure du scénario et c'est sans doute un très bon rappeur. Et du coup, quelqu'un qui, à sa manière, manie le verbe, certes pas de la manière pas de la manière entendue quand on est dans des milieux intellectuels et qu'on est à sas, etc. Mais en même temps, il manie la langue à sa manière et il la manie avec puissance. Et ça, on le voit pas dans le film et c'est un peu dommage parce que, et c'est pour du coup rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être que c'était trop de faire de Camélia Jordana une rappeuse. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le garder sur Mounir, ça?
Oui,
et nous le montrer
serait, par contre, ouais.
Tout à coup, ça aurait été intéressant. C'est-à-dire, on aurait fait exister une autre version de la langue française dans les quartiers, et en même temps, une langue qui est hyper belle et qui a de la force.
Et montrer que ça peut permettre aussi de parler de forme. Parce que d'ailleurs,
sans doute la meilleure
analyse artistique en fait de la déliquescence des banlieues etc c'est Demain c'est loin de Hayam quoi,
ouais bien sûr,
où comment il parle en 5 minutes mais hyper profondément des raisons sociologiques en fait qui amènent à cette déliquescence des banlieues,
ouais,
et que c'est fort, que c'est vrai et c'est utilisé et c'est fait avec une langue des banlieues et donc que cette langue peut être un vecteur de vérité.
Et effectivement, j'aurais trouvé ça trop stéréotypé que la protagoniste soit rappeuse, mais qu'effectivement, si l'autre avait une aspiration à être, tu vois, un rappeur connu, etc. Et ça, je pense que par contre, c'est très très représentatif de beaucoup de, voilà, de ces milieux-là, où il y a très souvent, je vais être rappeur, ou alors je vais être un athlète professionnel, et c'est notre seule façon de sortir de notre truc, tu vois.
Et après, pour revenir à ta question initiale, pourquoi le film, il reste regardable, il reste, tu vois, tu t'en sors pas absolument scandalisé, je pense que c'est aussi parce que le discours du film, c'est un discours auquel on est extrêmement habitué, et que c'est vraiment au fur et à mesure de la réflexion, quand tu commences à réfléchir et à prendre du recul, dire quand même il est très problématique. Ne serait-ce que moi, dans cette conversation, mon opinion par rapport au film, elle a changé en début d'enregistrement. Arnaud, tu dis je pense que le film est pas raciste, et ben en fait maintenant je te dis si finalement je pense que le propos du film est raciste, mais tu vois, parce que au départ tu dis c'est pas raciste, et en fait à la fin tu dis si, parce que c'est un espèce de racisme post-colonial de la meuf ne peut la meuf issue d'immigration ne peut réussir que à l'homme blanc, tu vois. Et si ça c'est pas post-colonial, je sais pas ce qu'il est.
C'est Tarzan qu'il est.
Non mais t'as raison, en vrai t'as raison. Mais en fait, si j'avais dit ça, je crois que c'est surtout pour le fait de dire que le film épouse pas le discours du professeur.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire, le discours du professeur de dire
c'est pas le même
mais je suis d'accord avec toi, c'est un autre discours et c'est du racisme aussi. Et tu vois, c'est ça, c'est au début tu te dis non et après tu dis ah bah si quand même. C'est pour ça que tu vois, on y est habitué en fait.
Mais,
c'est un discours qu'on entend tout le temps et qui nous choque plus, enfin qui te choque quand tu commences à réfléchir à le déconstruire.
On retombe sur ce que tu disais Arthur, en fait notre discours là entre nous, hein, l'échange de paroles nous fait réaliser certains trucs.
Mais parce que à nouveau là ce qui est chouette dans notre discussion, c'est que on essaye de circonscrire ce qui nous semble être le discours du film, ou en tout cas ce que le film laisse transparaître de lui-même quand il se déploie, quoi. Et du coup, on parle, mais on parle pour essayer quand même de toucher du doigt quelque chose qui a trait à la vérité qui se dégage du film, quoi. Et je sais pas, je suis très partagé, embêté aussi par le film.
C'est que c'est subtil, en fait. C'est ça.
Parce qu'en plus,
c'est subtil ce qui.
Non, mais parce qu'en plus de ça, genre le film est bien mis en scène. Enfin, tu vois, bah, par exemple, toute cette séquence d'ouverture, on la voit arriver dans l'amphi, où tout à coup, bam, t'arrives dans cet amphi, il y a 800 personnes. Enfin, je sais pas, il y a une ambition formelle quand même dans le cadre d'un film classique. Hein, mais le classicisme, c'est pas un gros mot. Que je trouve louable et que je trouve même remarquable à bien des égards, quoi. C'est un film compliqué. C'est un film compliqué.
Ouais, je vais vous demander vos miams, mais c'est ultra compliqué aussi en fait. Pour la première fois, je pense qu'on va donner nos miams après la partie spoiler parce qu'on n'a pas d'idée en fait avant d'en parler. Parce qu'on a oublié déjà. Je sais pas. En fait. Au début, franchement, je pensais dire 3 parce que moi, j'allais dire oui, c'est quand même plaisant, regardez, etc.
Je suis un peu comme toi. Je suis très embêté.
2,5 parce que
t'as pas passé un mauvais moment.
Parce que j'ai pas passé mon moment, mais ça peut partir dans les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir ça comme un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. En fait, je sais pas trop.
Ah, franchement, le problème, c'est que au gré de la discussion qu'on vient d'avoir, moi j'étais un peu comme toi au départ. J'avais envie de donner trois miams, mais en fait, là tout de suite, j'ai envie d'en donner un ou
ouais,
un. Ouais,
c'est ça, on va le prendre. Tu mets une sanction politique ou pas.
Simplement parce que, quelles que soient les qualités d'un film, le problème, c'est comment tu signes ton film. Et le fait est que la signature du film est moralement très.
Ouais, le message est problématique, voilà. Donc tu peux pas donner une bonne note. Enfin, moi personnellement, j'aurais du mal à donner une bonne note à un film avec le message duquel je ne suis pas du tout d'accord, quoi.
Non, mais t'as absolument raison.
En fait, on nous demande de faire ce que Neila a fait au personnage de Daniel Craig.
De l'absoudre.
C'est-à-dire, en fait, on nous demande de l'excuser sur c'est son ça. Fond parce que ben on a quand même passé des bons moments avec lui. Mm. Tu vois.
Est-ce qu'on va le faire ou pas, tu vois.
C'est ça. Je suis pas forcément tout à fait d'accord en général sur. Je peux être en désaccord avec l'auteur et adorer une œuvre, mais est-ce que cette œuvre me révèle quelque chose de profond sur ce qui est décrit?
Oui, tout à
et
fait
je pense
fait.
Par exemple à Welbeck, qui est un auteur que j'aime énormément, et pendant très longtemps, en fait, j'ai vraiment cru qu'il y avait un espèce de second degré dans son œuvre. C'est-à-dire qu'il jugeait les personnages qui étaient, et quand tu l'écoutes parler de plus en plus, tu te dis, il n'y en a pas forcément, mais ouais. Malgré tout, il révèle quelque chose de ces personnages, de cette manière de penser, et je le vois pas forcément ici, parce que le personnage du professeur est pas assez développé. Mmh. Je vois pas sa vie à l'intérieur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le film me révèle rien sur la pensée réactionnaire de ce personnage. Alors que les livres de Welbeck m'en révèlent énormément sur ça, tu vois.
Oui, c'est pas le sujet du film d'ailleurs.
Ouais.
C'est aussi pour ça. Enfin, je veux dire vraiment à nouveau le personnage de Daniel Auteuil est quand même réduit à portion congrue sur tout ce qui concerne une potentielle arche intime. Il y a pas d'arche intime en fait sur le personnage dans le fond.
Ouais, je pense que ce que j'aime aussi dans ce film, c'est le côté Rocky, le côté on va t'entraîner, on va faire un montage, etc. Et est-ce qu'on peut ne pas se positionner là?
Faut en dernière instance lui mettre une mauvaise note,
ouais.
Je pense.
Ne serait-ce que parce que ça nous permet de parler de ces choses-là dont on parle très rarement, parce que encore une fois ces distinctions-là de racisme, c'est subtil et on en parle assez rarement. Je vais pas mettre la même note qu'à Justice League, donc je vais mettre plus quand même parce que c'était vraiment la merde. Donc je sais pas, 1,5 miam.
Moi je mettrais 1.
Ok.
Ouais, moi je mettrais 1,5 du coup aussi.
Allez, 1,5.
Ok, d'accord. Merci. Est-ce qu'on fait une petite section film en vrac? Est-ce que vous avez vu d'autres films? Oui, je sais que toi, Arthur, t'avais vu un autre film cette semaine, je crois.
T'avais vu l'adaptation de Daddy Bellegueule, non? C'est pas ça?
Non, j'ai vu Marilyn.
Ah, Marilyn! Je croyais que t'avais dit Marvin en fait.
Non, ah oui, oui, c'est vrai
qu'il y avait
Marvin. Ça sort plus ou moins au même moment. Moi j'ai vu donc Marilyn de Guillaume Gallien. Je suis pas partagé hein, sur le film dans le fond. Je pense plus de mal que de bien du film. Mais en même temps, alors c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est un film dont j'aime beaucoup le début et dont j'aime vraiment beaucoup la dernière scène. Et j'ai tendance à quasiment pas rien aimer, mais à aimer très peu de choses pendant une heure et demie au milieu.
Ça fait pas mal quand même.
Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup, mais en fait, si vous voulez, ce qui est compliqué avec Marilyn, pour vous le dire en deux mots, c'est que vous connaissez le pitch de l'histoire vite fait.
Non, pas du tout.
Ok, d'accord. Donc c'est l'histoire donc d'une jeune femme qui veut devenir comédienne, qui vient d'un milieu très populaire et d'un petit village de Picardie, je crois. Et qui, pour du coup devenir comédienne, décide de partir à la ville, quoi. Et ça va être un peu sa descente aux enfers à mesure qu'elle se confronte au milieu du cinéma, du théâtre, et que les choses se passent pas aussi bien qu'elle voudrait, et la déprime, quoi. Grosso modo, c'est un peu l'histoire. Le truc, c'est que, en fait, ce qui est très compliqué dans le film, c'est que, et qui est quelque chose qui était déjà dans Guillaume et les garçons à table, sinon que ça fonctionnait très bien parce que c'était très ancré dans le dispositif narratif et formel du film, mais c'est que la question du théâtre et de l'énonciation au théâtre, c'est-à-dire la déclamation, quoi, est prise à bras le corps par le film, mais de manière pas du tout homogène, si bien que je peux pas vous expliquer en fait. C'est un film qui heurte beaucoup la suspension d'incrédulité qu'on peut éprouver en le voyant, parce que tout à coup il y a des personnages qui peuvent se mettre à hurler. Comme on se mettrait à hurler au théâtre, en fait. Et ce régime de jeu est en fait pas pas si constant que ça dans le film. C'est-à-dire que il y a des moments où on est dans des registres de jeu plus naturalistes et tout, et tout à coup il y a un personnage qui débarque et qui se met à jouer, mais comme si genre il s'adressait à la personne au dernier rang tu vois, d'un amphithéâtre. Donc donc du coup j'ai vraiment du mal avec le jeu dans le film, et je trouve le film en fait très outrancier à cause de ça.
Est-ce qu'il y a une réflexion sur ça, sur justement le jeu ou les jeux au théâtre ou des trucs comme ça?
Si, ça travaille le film, mais d'une manière beaucoup moins limpide et forte que dans Guillaume et les garçons à table, voire un peu lourde à certains endroits, je trouve. Et du coup, c'est quand même vraiment très difficile de rester en empathie avec le film pour cette raison, et aussi parce que le personnage principal a une tendance à évoluer assez peu dans le récit, c'est-à-dire que finalement elle se met à déprimer assez rapidement dans le film, et il y a une sorte ensuite de fuite en avant autour de la question de la dépression qui fait que c'est quand même assez difficile de rester passionné par le film pendant tout son déroulé, quoi. Le truc, c'est qu'en même temps, il y a une dernière scène vraiment magnifique qui se passe et qui fait que le film me rattrape en dernière instance, qui me touche en dernière instance.
Gardien de la Galaxie 2, quoi.
C'est un peu mon Gardien de la Galaxie du cinéma d'auteur. Gardien de la Galaxie 2, du coup. C'est-à-dire que c'est un film où finalement, voilà, j'ai passé tout le film à avoir beaucoup de problèmes avec le film, et où en même temps, à la toute fin, je trouve que le film réussit à trouver une manière de se verrouiller, discursivement, plus ou moins, mais surtout émotionnellement. Et bref, et donc du coup, je suis un peu partagé sur le film. Je pourrais pas conseiller aux gens d'aller le voir, parce que vraiment, c'est une épreuve quand même. Mais en même temps, je pourrais leur dire que s'ils y vont, vaut mieux pas qu'ils partent au bout d'une heure trente, parce que là ce serait con, ils auraient passé 1h20 à souffrir et ils auraient pas eu les 5 minutes de fin, genre, pour, tu vois, sauver l'expérience.
D'accord. Ok. Arnaud, est-ce que t'as vu des choses cette semaine?
Ouais, écoute, j'ai vu Thelma de Joachim Trier.
Ok.
Et donc Joachim Trier, c'est lui qui avait fait Oslo 31 août, qui était plutôt un beau film. Et là, pour la première fois, il fait un film fantastique qui, je trouve, démarre extrêmement bien, et au bout d'un moment se perd dans des méandres où au bout d'un moment je sais plus ce que c'est, ce film, en fait.
Dis-nous le pitch vite fait.
Alors je vais vous dire. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui part de chez elle pour aller à la fac pour la première fois, qui vient d'une famille extrêmement religieuse, très chrétienne, et qui tombe amoureuse d'une camarade de promo. Et vu que c'est interdit, il y a du refoulé qui ressort. Et avec ça, elle découvre qu'elle a, elle est une sorcière, grosso modo. Et que quand elle désire très fort quelque chose, ces choses arrivent.
D'accord.
Et que ça peut être une malédiction. Donc la figure de la sorcière, c'est toujours une figure super intéressante au cinéma. C'est une... puisque, en fait...
The Witch.
Généralement, ça va toujours travailler la même chose, en fait, qui est le statut de la femme dans notre société, et qui va essayer de comprendre pourquoi, en fait, une femme est qualifiée de sorcière, etc., etc.
Ouais, c'est la figure féministe par excellence, la sorcière.
Ouais, tout à fait. En tout cas, dans le cinéma contemporain, c'est ce qu'elle est devenue.
Ouais, tout à fait.
Et en fait, le problème que j'ai avec ce film, au bout d'un moment, en fait, tu te dis que c'est ça qui va être travaillé, et le film ne travaille pas du tout ça, en fait. Ce côté oppression de la femme, etc., etc. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnages qui sont montrés comme hystériques, que la manifestation de leur pouvoir de sorcière, c'est cette hystérie, et que c'est jamais annoncé, même comme une hypothèse, que en fait, ce qu'on appelle hystérie, c'est juste la manifestation, en fait, d'un moi de ces femmes-là. On le met jamais. Donc au bout d'un moment, je sais plus trop ce que le film essaie de développer. Okay. Je comprends pas très bien. J'ai presque l'impression, au bout d'un moment, même si in fine c'est pas ce que dit le film, et qu'au bout d'un moment on nous dit que ouais, les sorcières c'est dangereux, il faut les tuer, quoi. ce qui est un peu étrange. Et surtout, aussi le problème que j'ai, c'est que cette histoire d'amour, elle est amorcée comme quelque chose et qu'elle est jamais vraiment développée. C'est-à-dire que l'objet de cet amour, c'est jamais un véritable personnage. C'est vraiment une figure qui est là, puis qui disparaît, puis qui revient, et qui est jamais vraiment développée comme un personnage à part entière. Surtout qu'il y a plein de pistes qui sont... Il y a des pistes qui sont évoquées. À un moment, il y a le père de la fille qui lui dit « Mais en fait, elle t'a jamais vraiment aimé, c'est toi qui as eu des sentiments pour elle, qui a souhaité très fort que ces sentiments soient réciproques, et du coup, ce sentiment qu'elle éprouvait pour toi était artificiel. » Et là, je me dis « Ah, c'est intéressant, peut-être qu'on va essayer de développer, de voir sur la sincérité. »
Ouais.
C'est jamais fait. Et il y a plein d'éléments comme ça, c'est-à-dire que même on nous met dans des flashbacks, on nous la montre petite fille, où elle utilise ses pouvoirs en fait pour faire disparaître son frère parce qu'elle est jalouse de l'affection que ses parents portent à son frère. Et je trouve que c'est quelque chose aussi d'assez intéressant, mais pareil qui est développé. Et pareil, il y a des contradictions, c'est-à-dire que d'un côté on nous dit qu'elle a ses pouvoirs dès l'enfance, et que du coup il a fallu la réprimer pour empêcher, pour réprimer ses pouvoirs-là, donc qui est pas un discours très très intéressant, puisque grosso modo à ce moment-là ça nous dit que en fait les femmes qui ont des pouvoirs il faut les réprimer parce que sinon ça risque de créer des catastrophes. Et donc c'est jamais vraiment Carrie non plus, parce que Carrie elle le développe à l'adolescence et c'est le résultat de frustrations qui sont extériorisées. En fait, oui. tu vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que le film il a à la fois un pied dans un endroit, un pied dans un autre, et qui se dépatouille pas vraiment de. J'ai l'impression que c'est un film en fait qui est pas suffisamment maîtrisé pour essayer de me parler de la figure de la sorcière. Oui. C'est l'impression que m'a fait le film. Le film est pas désagréable à regarder, hein, mais
okay.
Voilà.
D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander vos miams sur ces deux films pour avoir une petite idée par rapport à votre sentiment.
Je mets 2,5 parce que le film est assez agréable à regarder quand même, D'accord. Tu vois. Mais
et Arthur, moi, je mettrais 2.
2 pour Marilyn, ok. Fais-la, qu'est-ce que t'as vu des films, des trucs.
J'ai vu Battle of the Sexes.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, alors cette semaine. Donc l'histoire, c'est une tenniswoman dans les années 70 qui se bat pour avoir le même salaire en fait que les hommes, et pour que les femmes, les tenniswomen soient traitées de manière égale que les hommes. Et voilà, et c'est un film qui est très distrayant, c'est plutôt léger, hein, c'est pas un film militant, enfin c'est un... Tu suis une nana qui milite, donc ça peut être pris comme un film militant, mais c'est un film qui est plutôt léger. Moi, j'ai passé un très bon moment. Franchement, après, c'est Emma Stone et Steve Carell. Je trouve que c'est quand même de très bons acteurs, tous les deux. Voilà, rien à dire de particulier. C'était chouette. Il casse pas. Enfin, tu vois, c'est pas le film de l'année, mais j'ai passé un bon moment.
D'accord.
Voilà.
Combien sur 5?
3. 3,5.
Ok.
Ouais,
ça avait l'air de faire partie un peu de ces films Oscar qui sortent toujours vers la fin de l'année.
Ah ouais, tu penses?
Non, je sais pas, parce que c'est un biopic, c'est tiré d'une histoire vraie.
Oui, c'est bizarre. Ouais, c'est un biopic. Et puis Emma Stone, elle est moche, donc peut-être que.
Ah
c'est...
oui,
elle est moche. Voilà, tu vois, deux éléments, tu vois, pour.
Le truc monster de Charlize Theron, quoi. Ok. Moi, j'ai pas vu de nouveaux films, je crois, ces derniers temps. Je finissais la série Punisher, qui est assez surprenante parce qu'en fait ça parle beaucoup plus de stress post-traumatique de vétérans, du sacrifice des vétérans, de cette caste d'humains à qui on oblige de faire des atrocités, et comment en fait ils vivent ça. Est-ce que je pouvais m'y attendre un petit peu parce que c'est le Punisher, mais je trouve que c'est assez c'est sérieux en fait, presque parfois, dans leur façon de traiter ça. Après, il y a tout le truc du Punisher, bon, c'est très violent, c'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Il y a quand même un bémol que je mettrais sur cette série, sur cette saison, donc qui est sortie sur Netflix, c'est que en fait on est trop concentré sur un seul même arc narratif pendant 13 épisodes. Je trouve que dans les séries Marvel de Netflix, celle que j'ai le plus aimée, c'était la Daredevil saison 2, où justement on pouvait en fait petit à petit développer plusieurs choses avec plusieurs personnages en faisant relier sur l'histoire générale. Et là, pas du tout en fait. Et comme c'est très dark, ça parle tout le temps de corruption, de trucs complotistes un peu du gouvernement. On est à deux doigts, tu sais, à la fin, de se mettre genre du papier alu autour de la tête et des trucs comme ça, que c'est assez pesant en fait. Donc je trouve que presque c'est un poil trop dark parce qu'on se concentre un peu trop sur ça. Bon, en termes de production, c'est parfait, les acteurs sont très bons, John Bertal est un très bon Punisher, mais je m'attendais, je sais pas, peut-être je m'attendais à un poil plus de fun en fait dans une série le Punisher, donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment de miam sur les séries, donc à vous de vous faire votre idée sur ça. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, j'ai revu Tonnerre sous les tropiques, et c'est toujours très bien. Donc regardez-le. Bon, du coup, j'ai plus qu'à vous remercier tous. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Retrouvez-nous la semaine prochaine, et n'oubliez pas d'aller nous noter sur iTunes, de nous mettre 5 étoiles, de nous mettre des commentaires tout jolis, dire qu'on est d'excellents analystes. Et bisous à tous.
Bisous.
Salut.
Bisous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.